premier sur l'info, l'info locale. Il est 7h30, tout de suite les titres de votre journal local, présenté par Wallis Glaise, préparé par notre rédaction. Bonjour Wallis.
Bonjour Arnaud et bonjour à tous. Après les révélations de l'enquête menée par le média d'investigation Disclose sur l'irradiation des populations polynésiennes lors des essais nucléaires, les parlementaires polynésiens interrogent le gouvernement français. L'alerte tsunami de jeudi dernier a provoqué une vague de questions aux Fénois. Elles sont nombreuses. Le directeur du cabinet du haut-commissaire tire le bilan de cette alerte, vous l'entendrez dans ce journal.
Toxique, les parlementaires polynésiens demandent des explications au gouvernement central.
Quelle confiance accorder aux déclarations lénifiantes du gouvernement central sur les conséquences des essais nucléaires au lendemain des révélations de Disclose? C'est ce qu'a demandé en tout cas hier le député Mouetaï Brotherson à la ministre des Armées Florence Parly lors de la séance des questions au gouvernement. Cette dernière a débuté sa réponse en citant le récent rapport de l'INSERM commandé par son ministère, dont nous allons étudier les conclusions pour évaluer la nécessité de conduire une étude épidémiologique comme demandé par les associations locales, je cite. De leur côté, les sénateurs polynésiens Tevaro Fritsch et Lana Tetanui ont interpellé la ministre des Armées et appellent au gouvernement national à faire toute la lumière sur les retombées réelles des essais nucléaires français en Polynésie. Je vous propose justement d'écouter Tevaro Fritsch.
Nous ne connaissons pas, on va dire, les rédacteurs de cette analyse qui est livrée publiquement, mais nous demandons au ministère des Armées, fort de ses capacités d'analyse, fort des informations qu'ils détiennent, eh bien, de nous apporter leur éclairage et de nous dire si la thèse qui est évoquée est vraisemblable, véridique, vérifiable, et en fonction de cette première réponse, quelles sont les conséquences à en tirer. La première chose qui me semble assez essentielle, c'est le droit de savoir, et puis en fonction des réponses, le droit à réparation si les faits sont avérés.
Si le sénateur ne préfère pas tirer trop vite de conclusions, il faut aussi pouvoir prendre en compte la stupeur et l'indignation des Polynésiens face à de telles révélations.
On ne tire pas de conclusion de notre côté et je comprends aussi l'émotion certainement des Polynésiens à la lecture de ces articles de presse. C'est une vision, c'est une modélisation nouvelle qui aurait été faite à partir des archives qui ont été déclassifiées. Il faut déjà d'abord reconnaître que c'est parce que les archives ont été déclassifiées que ces analyses ont été menées. En tout cas, c'est notre rôle de parlementaire de frapper à toutes ces portes compte tenu de la stupeur, parce qu'on peut parler stupeur de l'opinion publique polynésienne. Si tout ce qui a été dit est faux, il est de la responsabilité de l'État de le démentir et de porter les actions qui s'imposent. Et je crois que les textes prévoient en la matière des voies de recours. Mais si c'est vrai, il est important aussi d'en tirer toutes les conséquences, y compris sur les dispositifs qui sont en cours aujourd'hui.
Et nous vous parlons à présent de la gestion de l'alerte tsunami. Le Haut-Saria tire un bilan mitigé.
Au commissariat, on sait que beaucoup en Polynésie ont jugé durement l'alerte tsunami qui a été émise, souvenez-vous, jeudi dernier, après un puissant séisme au large des îles Kermadec. D'après ces modèles, l'élévation de l'eau qui ne dépassera pas au final les 10 à 20 cm pouvait atteindre les 1,60 m par endroit. Des hypothèses qui justifient par le Haut-Saria la convocation d'un PC de crise à 10h. Le commissariat ne gère donc pas la prévision, mais sa traduction en termes d'action administrative. 5 jours après la quasi fausse alerte, le directeur de cabinet du Haut-Saria, Cédric Bouet, tire un bilan plutôt nuancé de ce processus.
Dans les choses positives, nous avons réussi à obtenir une évacuation dans le temps imparti, c'est-à-dire que les zones avaient été vidées, évacuées de leurs occupants avant l'arrivée attendue du phénomène sur nos côtes. Nous avons eu une mesure de restriction de l'accès à ces zones, c'est pour ça que nous avons bloqué en amont la circulation automobile, et dans le même temps, eh bien, le concours des polices municipales, des services municipaux, des services de gendarmerie, de sapeurs-pompiers permettait de mettre à l'abri et d'orienter les différentes populations vers les zones refuges. Dans le même temps, les écoles mettaient en œuvre leur plan de protection et plaçaient les élèves à l'abri selon les directives qui...
Et pourtant, tout n'a pas marché comme prévu, à commencer par les sirènes d'évacuation et qui auraient dû retentir dans toutes les zones concernées. 11 sirènes ont été actionnées depuis l'Haut-Saria, mais au moins 7 d'entre elles n'ont pas fonctionné à Tahiti, de quoi créer un sentiment de confusion.
Nous allons aussi travailler évidemment sur un angle technique à une fiabilisation du système d'alerte des populations, des sirènes. Nous avions dans nos propres éléments une assurance que 80% des sirènes fonctionnaient. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé en réalité. Donc nous avons une défaillance que nous allons devoir surmonter et très vite. Les fonds intercommunaux de péréquation financent largement l'équipement et la réparation et l'entretien des sirènes. Et manifestement, dans certaines situations, cet entretien n'avait pas été poussé jusqu'au bout. Et nous devons surmonter cet écueil-là.
Cette gestion de crise appelle donc nécessairement un bilan collectif et des corrections, les mots d'ordre, réorganisation et renforcement de la sensibilisation.
Évidemment, quand il ne se passe rien, on se demande pourquoi est-ce qu'on a fait tant d'efforts. Le problème, c'est que s'il se passe quelque chose, on ne comprendrait pas de ne pas avoir consenti les efforts nécessaires pour se protéger. Oui, bien sûr, il faut bien sensibiliser les générations les plus jeunes, mais pas seulement, sur le fait que la Polynésie est un territoire qui est soumis aux risques naturels, météorologiques, majeurs, qui peuvent avoir des effets désastreux et qui doivent à tout moment être des éléments gardés à l'esprit, parce que le jour où c'est nécessaire, il faut savoir être réactif et adopter les bons gestes, les bons comportements pour se mettre en protection et ne pas exposer les autres.
En deux siècles, le Fénois aurait connu une vingtaine d'élévations soudaines du niveau de la mer causées par des séismes. Environ la moitié de ces phénomènes ont causé des dégâts graves. Le dernier en date a eu lieu le 22 novembre 1960. Un tremblement de terre au large du Chili avait engendré un tsunami qui a fait plusieurs blessés aux Marquises et à Tahiti.
7h36 sur Radio 1, on continue notre journal du côté de Tikeo avec une page justice. Second jour du procès de l'homme poursuivi pour le meurtre de son épouse en octobre 2018.
Hier, la cour d'assises a longuement entendu les témoins directs des violences qui avaient causé la mort de la victime. D'après nos confrères de Tahiti Info, ce sont tout d'abord les membres d'équipage et des touristes qui avaient accueilli l'accusé et la victime sur leur catamaran qui ont relaté les premiers coups, des coups violents portés sur une femme par son tanné, interrogé sur l'attitude de la victime. L'une des touristes entendues par la visioconférence a expliqué que la femme semblait avoir peur et qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle. Selon tous ces témoins, les violences étaient ciblées uniquement sur la victime qui était effrayée à l'idée de rentrer avec son mari mais qui n'avait pas vraiment malheureusement le choix. Le procès reprendra donc ce matin. L'accusé en cours, la réclusion criminelle à perpétuité.
Suite et fin de votre journal, on va parler de l'ex-directeur de la banque de Tahiti de Papara condamné pour escroquerie et abus de confiance.
Entre 2011 et 2014, William Ebb avait profité de sa position à la banque de Tahiti pour faire souscrire des crédits à 13 personnes proches ou membres de sa famille, souvent insolvables et parfois même non domiciliés à la BT. L'enquête révélera une cavalerie portant sur 75 millions de francs. 21 millions ont été détournés puisque jamais remboursés et sur cette somme, 9 millions ont fini sur son propre compte à plusieurs de ses victimes. Il dit de ne pas s'inquiéter des mensualités qu'il allait les régler directement. Et c'est durant l'enquête menée par la banque qu'ils apprennent tout simplement la vérité. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont même à la fois victimes et complices. Puisqu'ils ont dû signer des échéanciers jusqu'à 212 mois pour rembourser les crédits souscrits à leur nom. Sa propre fille est interdite bancaire. Écoutez Maître Mestre, l'avocat de la banque de Tahiti.
C'est une défense classique de victimisation. Il a indiqué aussi avoir été harcelé par une de ses victimes. Donc on ne peut pas tellement s'en étonner. Le prévenu était directeur d'agence. Il avait donc une marge de manœuvre très large, qu'il a constitué des dossiers de prêt à l'aide de faux documents et que c'est précisément le contrôle interne qui l'a mis au jour. Donc la banque a fait ce qu'elle devait faire. Les agissements du prévenu ont entaché la réputation et la crédibilité commerciale de la banque.
L'homme a été condamné pour escroquerie, abus de confiance à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Un sursis avec mise à l'épreuve de 3 ans. L'obligation d'indemniser la banque de Tahiti est la seule victime à s'être portée partie civile. Il devra également s'acquitter d'une amende de 5 millions de francs et 5 ans de privation de ses droits civiques. Voilà pour ce journal, il est terminé. Merci beaucoup de l'avoir suivi.